Chapitre 2. À l'intérieur d'un gigantesque immeuble vide et délabré qui jadis avait accueilli des milliers de résidents, un récepteur de télévision débitait son boniment dans une pièce déserte. Avant la dernière guerre mondiale, cette ruine à présent sans propriétaire avait été parfaitement entretenue. Elle se trouvait dans ce qui avait jadis été la banlieue de San Francisco, à deux pas du centre par monorail express. La péninsule tout entière bruissait alors de vie comme un arbre couvert d'oiseaux, mélange d'opinions, de plaintes, de joie. Mais désormais, ses propriétaires attentifs avaient soit péri, soit émigré sur un monde colonial. Péri, pour la plupart. La guerre avait été coûteuse en dépit des vaillantes prédictions du Pentagone et de son arrogant vassal scientifique, la RAND Corporation, qui d'ailleurs avait à l'époque ses locaux non loin d'ici. À l'instar des propriétaires des appartements, elle aussi était partie pour de bon. Et personne ne la regrettait. De plus, plus personne à présent ne se rappelait pourquoi la guerre avait éclaté, ni même qui l'avait gagnée, pour peu qu'il y ait eu un gagnant. La poussière radioactive qui avait contaminé l'essentiel de la planète ne provenait d'aucun pays en particulier, et personne, pas même l'ennemi, ne l'avait prévu. Ça avait été les chouettes qui, étonnamment, s'étaient mises à mourir en premier. À l'époque, les gens avaient presque trouvé ça amusant, ces gros oiseaux blancs duveteux qui gisaient ici et là dans les rues et les jardins. Comme elles ne sortaient jamais avant le crépuscule, elles étaient passées plutôt inaperçues jusque-là. Les pestes médiévales s'étaient manifestées de la même manière, sous la forme d'innombrables rats morts. Cette peste-ci, cependant, était descendue du ciel. Après les chouettes, bien sûr, ça avait été le tour des autres oiseaux. Mais entre-temps, le mystère avait été résolu. Un timide programme de colonisation avait été mis en œuvre avant-guerre, mais maintenant que le soleil avait cessé de briller sur Terre, la dite colonisation était entrée dans une phase entièrement nouvelle. Dans cette optique, une arme de la guerre, le combattant synthétique de la liberté, avait été modifiée. Capable de fonctionner sur un monde étranger, ce robot humanoïde, à proprement parler, il s'agissait d'un androïde organique, était devenu la machine-outil sur laquelle reposait l'ensemble du programme de colonisation. Les lois internationales conféraient à chaque nouvel émigrant le droit de recevoir un androïde du modèle de son choix. Les années 1980 en avaient vu fleurir une variété qui dépassait l'imagination, à la manière des automobiles dans les années 1960 aux États-Unis. Cela avait fini de convaincre les colons. L'androïde servant de carotte, les retombées radioactives de bâton. L'ONU avait rendu l'émigration facile et difficile, sinon impossible, le fait de rester. Sur Terre, on risquait de se retrouver un jour brutalement classifié comme biologiquement inacceptable, une menace pour la préservation héréditaire de l'espèce. Une fois catalogué comme un spécial, et même s'il acceptait la stérilisation, un citoyen disparaissait littéralement de l'histoire. Dans les faits, il cessait d'appartenir à la race humaine. Et pourtant, ici et là, il y en avait encore pour refuser d'émigrer, ce qui même pour les individus concernés représentait quelque chose de fondamentalement irrationnel. En toute logique, la moindre personne normale aurait déjà dû émigrer. Peut-être la Terre demeurait-elle un endroit familier à leurs yeux, en dépit de ses cicatrices. À moins que les réfractaires ne s'imaginent que le linceul de poussière recouvrant ce monde auquel ils s'accrochaient allait finir par se lever. Quoi qu'il en soit, des milliers d'individus étaient restés là, pour la plupart regroupés dans des zones urbaines où le contact physique avec autrui leur redonnait un peu de cœur au ventre. Cela semblait encore relativement sain d'esprit. En plus d'eux, cependant, quelques personnalités singulières demeuraient dans les banlieues pratiquement abandonnées. John Isidore, qui se rasait dans sa salle de bain sous les vociférations de la télé installée dans son séjour, était l'un d'entre eux. Il avait simplement vagabondé jusque-là dans les premiers jours de l'après-guerre. En ces temps funestes, personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Déracinés par la guerre, les gens erraient de ci de là, campant temporairement dans une région puis dans une nouvelle. Les retombées à l'époque étaient sporadiques, hautement variables d'une zone à l'autre. Certains États n'en avaient pratiquement reçu aucune, tandis que d'autres en étaient saturés. Les populations déplacées allaient et venaient au gré de la poussière. La péninsule sud de San Francisco avait dans un premier temps été épargnée, et un grand nombre de gens étaient venus s'y installer. Quand la poussière était arrivée, ceux qui n'avaient pas succombé étaient partis. Pas J.R. Isidore. La télé hurlait littéralement.
Reproduit les jours heureux de l'existence sudiste avant la guerre de sécession. Valet de pied, ouvrier agricole infatigable, il y a un robot humanoïde traditionnel conçu spécialement pour vous, pour répondre à vos besoins, qui vous attend à votre arrivée totalement gratuit, entièrement équipé selon les spécifications que vous avez vous-même choisies avant votre départ de la Terre. Ce loyal serviteur, ce compagnon facile, vous accompagnera dans la plus grande, la plus audacieuse aventure que l'humanité ait vécue dans l'histoire moderne.
Et ça n'arrêtait jamais.
Il ne faudrait pas que je sois en retard au travail,
se dit Isidore en s'éraflant. Comme il ne possédait pas de pendule en état de marche, il s'en remettait généralement à la télé pour lui indiquer l'heure. Mais ce jour était manifestement consacré à la célébration du nouvel horizon interspatial. En tout cas, le poste ne cessait de répéter qu'il s'agissait du 5e, 6e anniversaire de la fondation de la Nouvelle-Amérique, la principale colonie états-unienne sur Mars. Et comme son récepteur à moitié déglingué ne lui permettait que de capter la chaîne ayant été nationalisée pendant la guerre, Isidore n'avait guère le choix. Le gouvernement de Washington, avec son programme de colonisation, restait l'unique programme qu'il pouvait regarder.
« Écoutons ce que Madame Klugman a à nous dire !»
lui suggéra le présentateur, alors qu'Isidore voulait seulement connaître l'heure.
« Récemment installée sur Mars, Madame Klugman est en direct avec nous depuis New York. Madame Klugman, comment compareriez-vous la vie que vous meniez sur Terre, un monde contaminé, avec votre nouvelle existence ici, sur une planète riche d'innombrables opportunités ?»
Un silence, puis une voix froide, fatiguée de femme entre deux âges répondit. « Je crois que ce qui nous a le plus frappé, ma famille et moi, c'est la dignité. »«
La dignité, Madame Klugman ?»
répéta le présentateur. « Oui. » fit Madame Klugman, à présent New Yorkaise. La dignité. Ce n'est pas une chose facile à expliquer. Le fait d'avoir des domestiques sur lesquels compter en ces temps troublés, je trouve ça rassurant.
Quand vous vous trouviez encore sur Terre, Madame Klugman, l'idée de vous retrouver classifiée comme, spéciale, vous inquiétait-elle?
Oh, mon époux et moi-même, on se faisait un sang d'encre. Bien sûr, toutes nos peurs se sont évanouies dès qu'on a émigré, et pour toujours, bien heureusement.
Et moi donc,
songea John Isidore avec aigreur.
Les miennes aussi se sont évanouies, et je n'ai pas eu besoin d'émigrer pour ça.
C'était un spécial depuis plus d'un an désormais, et pas simplement à cause des gènes altérés qu'il portait dans ses cellules. Pire encore, il avait échoué au test d'aptitude mentale minimale, ce qui faisait de lui, dans le langage populaire, une tête de piaf. Il devait composer avec le mépris de 3 planètes, ce qui ne l'empêchait pas de survivre pour autant. Il avait un boulot, chauffeur-livreur pour une boîte de réparation d'animaux artificiels, la clinique vétérinaire Van Ness. Et son patron, le sombre et gothique Hannibal Sloat, l'acceptait comme un être humain, chose qu'il appréciait à sa juste valeur. « Mors certa, vita incerta », comme aimait à le déclarer M. Sloat. Isidore, qui l'avait entendu bien des fois prononcer cette expression, n'avait qu'une vague idée de ce qu'elle signifiait. Après tout, si une tête de piaf pouvait comprendre le latin, elle cesserait d'être une tête de piaf. Quand il l'avait fait remarquer à M. Sloat, celui-ci en avait volontiers convenu. Sans compter qu'il existait des têtes de piaf infiniment plus stupides que lui, absolument incapable d'accomplir la moindre tâche et qui demeurait dans des institutions pudiquement baptisées « Institut américain pour talents spéciaux », le terme spécial devant bien apparaître d'une manière ou d'une autre, comme toujours.
Votre mari ne se sentait pas protégé, disait le présentateur, par le fait de porter continuellement une coûteuse et incommode coque anti-radiation en plomb, Madame Klugman.
Mon mari, reprit Madame Klugman, mais ayant alors fini de se raser, Isidore traversa à grands pas le séjour pour éteindre la télé. Le silence. Il suintait littéralement des murs et des boiseries, envahissant Isidore avec une irrésistible puissance, comme générée par une meute gigantesque. Le silence s'élevait du sol à travers la vieille moquette grise en lambeaux. Il s'échappait des appareils plus ou moins en état de marche qui équipaient la cuisine, des machines qui n'avaient jamais fonctionné depuis qu'Isidore vivait ici. Sortait de la lampe sur pied inutile du séjour, formait depuis le plafond constellé de chiures de mouches tout un réseau presque liquide de non-bruit, d'absence, qui s'étalait ensuite sur les murs. En fait, il parvenait à surgir du moindre objet qui se trouvait dans le champ de vision d'Isidore, escomptant bien supplanter toute chose tangible. Aussi n'assaillait-il pas seulement les oreilles du spécial, mais aussi les yeux. Debout devant son récepteur de télé inerte, le pauvre R avait l'impression que le silence était devenu visible, et à sa manière, vivant. Vivant. Ce n'était pas la première fois, loin de là, qu'il ressentait son austère approche. Quand il arrivait, le silence entrait en trombe, sans la moindre subtilité, manifestement incapable d'attendre. Le silence du monde ne pouvait retenir son appétit, plus maintenant, pas alors qu'il avait pratiquement gagné. Isidore se demandait si tous ceux qui étaient restés sur Terre ressentaient eux aussi ce vide de cette manière. S'agissait-il d'une particularité de son identité biologique particulière? Une lubie engendrée par ses sens médiocres? Une question intéressante, songea Isidore. Mais avec qui aurait-il pu comparer ses observations? Il vivait seul dans cet immeuble en ruine, composé d'un millier d'appartements inoccupés, aux fenêtres aveugles, et qui, à l'instar de ses semblables, s'abandonnait jour après jour à l'entropie. Au bout du compte, tout ce que contenait l'immeuble finirait par fusionner en un mélange anonyme, indistinct, qui s'empilerait du plancher au plafond de chaque appartement. Et après ça, ce serait au tour de l'immeuble lui-même de perdre peu à peu sa forme, de s'enfoncer dans l'ubiquité de la poussière. Entre-temps, bien sûr, Isidore aurait péri. Encore un autre événement intéressant auquel songer dans ce séjour sinistré face à l'immensité pénétrante, magistrale, d'un silence à l'échelle du monde. Mieux valait sans doute rallumer la télé. Mais les pubs, destinées aux derniers normaux, avaient tendance à l'effrayer. Par leur procession même, indénombrable, elles l'informaient que J.R. Isidore, un spécial, appartenait à la catégorie des indésirables, qu'il n'avait aucune utilité, que même s'il l'avait voulu, il n'aurait pu émigrer. « À quoi bon écouter ça, alors ?» se demanda-t-il avec irritation.
« Qu'ils aillent se faire foutre, eux et leur colonisation. Je leur souhaite une bonne guerre, là-haut. » C'était théoriquement possible, après tout, de finir comme sur Terre. Je leur souhaite de tous devenir des spéciaux. Bon. Au boulot.
Il posa la main sur le bouton de la porte, qui s'ouvrit sur le hall ténébreux. Le simple fait d'apercevoir le vide qui avait envahi le reste de l'immeuble fit reculer le spécial. Elle se tenait là, tapie dans l'ombre, à l'attendre. La force qu'il avait sentie pénétrer son appartement.
Mon Dieu,
se dit-il avant de refermer la porte. Il n'était pas prêt à affronter le bruit métallique des marches qui menaient au toit désert sans le moindre animal.
Il est temps de saisir les poignets.
et de traverser le séjour jusqu'à la noire boîte à empathie. L'odeur familière d'ion négatif s'échappa de l'alimentation électrique lorsqu'il la mit en marche. Il la respira à plein poumon, déjà regonflé. Puis le tube cathodique se mit à scintiller, telle une pauvre imitation de télévision. Un collage se forma, constitué de couleurs apparemment aléatoires, de traits, de configurations qui, tant qu'on n'avait pas saisi les poignets, ne rimaient à rien. Isidore prit donc une profonde inspiration pour se calmer, puis posa ses mains sur les poignées jumelles. L'image se figea. D'un coup, il se retrouva devant un paysage célèbre, l'antique montée de terre brune aride sur laquelle poussaient à l'oblique, semblables à des touffes d'ossements blanchis, des herbes sèches sous un ciel morne et sans soleil. Une unique silhouette, de forme plus ou moins humaine, était en train de gravir le flanc de colline à grand-peine. Un vieillard vêtu d'une terne tunique informe, aussi fine que si on l'avait extraite du vide hostile du ciel. Cet homme, Wilbur Mercer, avançait d'un pas lourd, et ses mains sur les poignets, John Isidore ressentait peu à peu la disparition du séjour dans lequel il se tenait. Les murs lépreux, le mobilier délabré, tout cela s'effaça complètement de sa conscience. Et il se retrouva, une fois encore, à pénétrer dans le morne paysage en pente, sous un ciel tout aussi morne, en même temps qu'il cessait d'assister de l'extérieur à l'ascension du vieil homme. C'était ses propres pieds qui raclaient à présent le sol poussiéreux, en quête d'un appui parmi les pierres branlantes. Il ressentait la même rugosité douloureuse des aspérités irrégulières sous ses pieds. Une fois encore, ses narines s'emplirent d'une brume âcre qui voilait le ciel, non pas le ciel terrestre, mais celui de quelque endroit étranger, lointain, et pourtant rendu accessible par la boîte à empathie. Il avait accompli cette traversée de la même manière singulière que d'habitude. La fusion physique avec Wilbur Mercer, accompagnée d'une identification mentale, spirituelle, s'était reproduite, comme elle l'avait fait pour tous ceux qui, en ce moment même, sur Terre comme sur les planètes colonisées, tenaient les poignets de leur boîte à empathie. Il les ressentait, tous ses frères humains, incorporait en son fort intérieur le babillage de leurs pensées, entendait dans son cerveau la rumeur de leur multiple existence individuelle. Tous partageaient, y compris lui, un seul et unique désir. La fusion de leurs esprits les orientait vers la colline, l'ascension, le besoin de gravir. Celui-ci grandissait peu à peu si doucement que c'en était imperceptible. Mais c'était bien là.
Plus haut,
songeait-il comme les pierres roulaient sous ses pieds.
Aujourd'hui, nous sommes plus hauts qu'hier. Et demain...
Il, le personnage composite de Wilbur Mercer, leva les yeux pour voir ce qui lui restait à gravir. Impossible d'apercevoir le sommet, trop loin. Mais le jour viendrait. Une pierre vint alors le frapper au bras. Il ressentit la douleur. Il se tourna à moitié au moment même où un second projectile le frôlait pour aller s'écraser sur le sol dans un bruit saisissant.
« Qui a fait ça ?»
Il regardait autour de lui, en quête de son persécuteur. Ses vieux adversaires, qui se manifestaient toujours à la périphérie de sa vision. Il l'avait suivi depuis le début de son ascension et ne disparaîtrait pas avant le sommet. Il se rappelait le dit sommet, le soudain nivellement de la colline, quand l'ascension cessait et que la seconde phase commençait. Combien de fois l'avait-il fait? Passé et futur se brouillaient. Ce qu'il avait déjà expérimenté et ce qu'il finirait par vivre se mêlait de telle sorte que plus rien ne restait que l'instant présent. Ce moment de repos immobile durant lequel il frictionnait la coupure que la pierre avait faite à son bras.
« Mon Dieu !»
songea-t-il avec lassitude.
« En quoi tout ceci est-il juste? Pourquoi me retrouvais-je seul ici, persécuté par quelque chose que je ne peux même pas voir ?»
Et alors, au fin fond de lui-même, Le babillage de tous ceux qui participaient à la fusion vint rompre son illusion de solitude.
Vous l'avez senti, vous aussi,
songea-t-il. Oui, répondirent les voix. On a été touché au bras gauche, ça fait un mal de chien.
Bon, dit-il. On ferait mieux de se remettre en route.
Et de reprendre sa marche, aussitôt suivi par le reste du groupe. Jadis, se souvenait-il, ça avait été différent. Sa vie d'avant avait été plus heureuse avant la venue de la malédiction. Ses parents adoptifs, Frank et Cora Mercer, l'avaient trouvé flottant dans un canot de secours gonflable au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Ou bien avait-ce été au Mexique, à proximité du port de Tampico? Il ne se souvenait plus des circonstances à présent. Il avait eu une belle enfance parmi les animaux. Il aimait la vie sous toutes ses formes et pour un temps avait même été capable de les ressusciter. Il vivait au milieu des lapins et des insectes, sur Terre ou sur l'un des mondes colonisés. Où ça, précisément, il l'avait également oublié. Mais il se rappelait les tueurs, parce qu'il l'avait arrêté sous prétexte qu'il était un monstre plus spécial que n'importe quel autre spécial. Et cela avait tout changé. Les lois locales prohibaient la faculté d'inverser le cours du temps par laquelle on faisait revenir les morts à la vie. On le lui avait bien fait comprendre dans sa 16e année. Il avait continué 1 an de le faire en secret, dans ce qui restait alors des forêts. Mais une vieille femme qui lui était totalement inconnue avait fini par le dénoncer. Sans même le consentement de ses parents, les tueurs avaient bombardé l'unique nodule qui s'était formé dans son cerveau avec du cobalt radioactif, ce qui avait précipité le garçon dans un monde totalement différent. Un monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. C'était un puits où s'entassaient les cadavres et les ossements qu'il avait retenus prisonniers des années durant. L'âne, et surtout le crapaud, les créatures les plus importantes à ses yeux, avaient disparu. Leurs 2 espèces s'étaient éteintes, n'en restaient que des fragments putréfiés. Un crâne sans yeux par-ci, un morceau de patte par-là. Au bout du compte, un oiseau venu là pour y mourir lui avait dit où il se trouvait. Il avait sombré dans le monde du tombeau et ne pourrait en sortir avant que les ossements répandus autour de lui ne redeviennent des créatures vivantes. Il s'était retrouvé mêlé au métabolisme d'autres existences et ne pourrait s'élever tant qu'elle-même ne se relèverait pas. Il ignorait combien de temps cette phase du cycle avait duré. Comme rien ne s'était produit, elle demeurait incommensurable. Mais pour finir, les os avaient retrouvé leur chair, les orbites vides s'étaient remplies, des yeux neufs avaient pu voir alors même que les becs et les gueules restaurées commençaient à caqueter, à aboyer, à miauler. C'était peut-être lui qui avait accompli cela. Peut-être les nodosités extrasensorielles de son cerveau avaient-elles fini par repousser. Et peut-être qu'il n'y était pour rien. Il avait très bien pu s'agir d'un processus naturel. Quoi qu'il en fût, il avait cessé de s'enfoncer. Il avait entamé son ascension en compagnie des autres. Ça faisait longtemps qu'il les avait perdus de vue et il avait fini par se retrouver à marcher seul. Mais ils étaient avec lui. Il n'avait pas renoncé à l'accompagner. À son grand étonnement, il les sentait à l'intérieur de son corps. Isidore se tenait là, accroché à ses 2 poignets, à expérimenter la sensation d'embrasser la totalité du monde vivant. Ce fut à regret qu'il lâcha prise. Il fallait que ça prenne fin, comme toujours, quand bien même son bras ensanglanté lui faisait mal, là où la pierre avait frappé. Il examina son bras après avoir relâché les poignets, puis se rendit tant bien que mal dans la salle de bain pour nettoyer la plaie. Ce n'était pas la première blessure qu'il recevait lors d'une fusion avec Mercer, et ce ne serait sans doute pas la dernière. Des gens âgés pour la plupart, en étaient morts, essentiellement plus tard, au sommet de la colline étrangère, quand les tourments commençaient pour de bon.
« Je me demande si je serai capable d'endurer encore une fois cette phase-là, »
se dit-il tout en tamponnant sa blessure. Avec les risques d'arrêt cardiaque, mieux vaudrait que j'habite en ville, dans un de ces immeubles qui ont un médecin prêt à intervenir avec un stimulateur électrique. Tout seul ici, c'est vraiment de l'inconscience. Mais il se savait prêt à courir le risque, comme il l'avait toujours fait, à l'instar de la plupart des gens, même les personnes âgées physiquement fragiles. Il se servit d'un Kleenex pour essuyer son bras blessé, et entendit alors, étouffé et lointain, le son d'une télévision. «
Il y a quelqu'un d'autre dans l'immeuble »,
songea-t-il, incapable d'en croire ses oreilles.
« Ce n'est pas ma télé. Ça vient de plus loin. Et je sens le sol résonner. C'est en dessous, à un autre étage. Je ne suis donc plus tout seul ici »,
comprit-il soudain.
Un autre résident a emménagé dans un des appartements abandonnés, et assez près de moi pour que je l'entende. Ça doit être au deuxième ou au troisième étage, sûrement pas plus bas. Voyons voir,
se dit-il aussitôt.
Qu'est-ce qu'on est censé faire à l'arrivée d'un nouveau résident? Passer le voir pour lui emprunter quelque chose? C'est ce qui se fait.
Il ne pouvait s'en souvenir. Jamais encore ça ne lui était arrivé, ici ou autre part. Les gens déménageaient, les gens émigraient, mais personne n'emménageait jamais.
Non. On lui apporte quelque chose,
décida-t-il.
Un verre d'eau, ou plutôt du lait, oui. Du lait ou de la farine, ou peut-être un œuf. Enfin, les ersatz qui en tiennent lieu.
Il jeta un œil dans son réfrigérateur. Le compresseur avait rendu l'âme depuis bien longtemps, pour n'y trouver qu'un cube de margarine douteux. Le cœur battant, il se mit néanmoins en route pour l'étage en dessous avec son petit trésor.
Il faut que je reste calme, que je lui dissimule ma condition de tête de piaf. S'il le découvre, il ne voudra même pas m'adresser la parole. C'est toujours comme ça que ça finit. Je me demande bien pourquoi.
Il se précipita dans le hall.